Voilà, c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons cet après-midi autour de la parole de Dieu. Parce que voilà, ça descend un peu, merci. Je me dis merci à moi-même. Hein. Voilà, et heureux de partager surtout la parole du Seigneur. Mais je dirais simplement, après le témoignage de Brigitte, je me demande ce que je vais pouvoir ajouter. Parce que je crois que le Seigneur conduit les choses d'une manière merveilleuse. Et nous avons entendu ce témoignage qui parle de l'amour de Dieu et de comment Dieu travaille les cœurs, même à partir du jeune âge. Et nous avons entendu aussi qu'il y avait des problèmes dans la vie de notre sœur, qui, familiaux et autres, qui ont été résolus par la présence du Seigneur Jésus qui est venu dans sa vie. Nous avons aussi chanté de beaux cantiques, ce qui veut dire que ce que je vais vous dire, ça va être par rapport à ce que vous avez déjà entendu. Et je voudrais vous dire simplement que je n'étais pas au courant de tout ce qui allait être dit. Ce qui prouve que quand l'Esprit de Dieu est là, tout part dans la même direction. Et que quelqu'un avait besoin d'entendre ce que vous avez déjà entendu et qui vont être simplement soulignés, rappelés au travers de la parole de Dieu. Parce qu'il y a une réalité. Notre sœur a parlé qu'il y avait dans sa vie, dans sa famille, des difficultés. Nous avons aussi chanté que Dieu était celui qui pouvait arriver dans nos vies et apporter le bonheur et un changement particulier. Mais tout cela nous rappelle une réalité d'aujourd'hui. Réalité qui est déjà écrite dans la parole de Dieu depuis les temps les plus reculés, à savoir que la vie n'est pas une vie facile. Bien, de personnes pourraient dire, mais moi, ça marche, etc. Il arrive que dans la vie, on rencontre des difficultés. Et je pense que personne ne pourrait dire le contraire. La parole de Dieu nous dit que déjà, pour les temps d'aujourd'hui, que les choses à venir ne sont pas faciles et ne seront jamais faciles, mais difficiles pour le genre humain. Et quand on lit les Saintes Écritures, la parole de Dieu, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, les paroles qui sont données quant à l'avenir du monde dans lequel nous vivons, ça ne s'arrangera jamais. Parce que telle est la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Dieu a fixé un temps où le monde sera détruit. L'ancienne terre, celle sur laquelle nous sommes, sera détruite. Mais Dieu, dans son amour, a préparé une terre nouvelle, céleste. Et cette terre nouvelle sera donnée à tous ceux et celles qui auront cru en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qui auront accepté l'amour de Dieu et non pas rejeté cet amour, mais l'auront accepté et auront vécu dans cet amour et dans le nom de Jésus, tout en étant obéissants à la parole. Le Seigneur Jésus a dit qu'il reviendrait chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Or, si nous ne nous sommes pas réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ, la Bible considère et souligne que nous sommes perdus, perdus pour l'éternité. Mais que si nous nous tournons vers lui, nous serons rayonnants de joie parce qu'il place dans nos cœurs l'espérance de la vie éternelle. Et que celui qui marche avec Jésus-Christ et dans l'amour de Dieu, un jour recevra par la volonté de Dieu la couronne de la vie. Alléluia. Et ça se passe dans le ciel. Mais en attendant d'arriver dans le ciel, il invite tous les hommes et toutes les femmes, les jeunes gens comme les plus âgés, à se tourner vers lui aujourd'hui, pas demain. Pourquoi aujourd'hui? Ben, je vais vous dire la vérité qui est marquée dans la parole de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien, on entend l'évangile, mais demain ne nous appartient pas. Voilà. Dites merci à Dieu pour aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord? Eh oui. Et demain, quand vous allez ouvrir les yeux, si Dieu le veut, vous pourrez encore à nouveau lui dire « Merci, je vais vivre par ta grâce un jour de plus. » C'est ça la vie avec le Seigneur. Beaucoup de gens ne réalisent pas ces choses. Ils croient que c'est normal de respirer, de se lever, d'aller, de venir. Mais ça, c'est une grâce de Dieu qui est renouvelée, nous dit la Bible, chaque matin. Mais il suffit que Dieu coupe simplement la respiration. Et là, je ne vous fais pas un scoop. Vous ne vous laverez pas si ça se passe la nuit. Parce que votre vie, comme ma vie, est dans les mains de Dieu. Et tous les jours que je vis, je dis merci Seigneur. C'est une grâce que tu accordes. Alléluia. Et dans notre marche journalière, eh bien, Dieu a fait une promesse aux hommes. Encore faut-il qu'il accepte. Et cette parole que Dieu donne, elle est donnée au travers de Paul dans l'Épître aux Philippiens que je vais vous lire, et qui nous prouve que Dieu est un Dieu d'amour pour ceux qui croient. Mais Dieu veut que tous les hommes croient. Et donc, il leur donne la possibilité d'entendre sa parole pour qu'ils soient sauvés pour l'éternité et qu'ils goûtent chaque jour à son amour. Alléluia. Car on ne peut connaître l'amour de Dieu que lorsque l'on vit dans l'intimité avec lui par la personne de Jésus-Christ. Et en lisant et en écoutant sa parole, qui est la vérité. C'est à ce moment-là que nous découvrons l'amour de Dieu et que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais ce qu'il dit, son bras l'accomplit. Alléluia. Car au cas où vous ne le sauriez pas, Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Et le Dieu des miracles, eh bien, il veut faire les miracles chaque jour de notre vie. Alors, on peut s'attendre à des grands miracles, gloire à Dieu, mais il y a aussi des petits miracles qui nous paraissent insignifiants, gloire à Dieu. Et sans le savoir, vous avez peut-être vécu un miracle parce que Dieu veillait sur vous. Et s'il veillait sur vous en étant étranger à sa parole, c'est que son amour veut vous amener à croire à sa parole, à plier les genoux devant la croix, à accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, pour que vous deveniez enfant de Dieu et héritier de la vie éternelle. Ce qui veut dire que Dieu agit à notre égard sans que parfois on le sache. Mais parce qu'il nous aime. Or, je vous disais qu'il y a un texte que là, ou quelques paroles que Paul dira aux Philippiens, en conclusion à sa lettre à l'Église, il dira ceci dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 19. Je vous le dis, écoutez bien. « Mon Dieu !» Vous connaissez ça, vous les chrétiens, j'espère. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire, en qui, je dirais, parce que c'est écrit, en Christ Jésus. » À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce qui veut dire que nous faisons partie du programme de Dieu. L'apôtre Paul le dit aux Philippiens, mais nous sommes conclus dedans parce que vous avez remarqué la fin du deuxième verset, au siècle des siècles. L'apôtre Paul parlait déjà de nous. Même s'il parlait aux Philippiens, eh bien, en cet après-midi, j'espère que je ne vais pas me tromper, il parle aux Anicéens, c'est comme ça qu'on dit ? Siens, Anéciens. Vous voyez, je me suis trompé. La langue a fourché, mais ça se mélange des fois là-haut. Mais il parle à vous ce soir, en cet après-midi. Il parle à votre cœur. Vous l'entendez, vous parler au travers de la parole de Dieu ? Il parle. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est-à-dire que Dieu est prêt à faire dans votre vie le miracle. Quel que soit votre besoin. Alors c'est vrai que nous pouvons connaître des temps difficiles, des moments de difficulté, des moments qui apparemment nous donnent l'impression qu'on va être anéanti par les moments que nous passons qui sont difficiles, qui sont des épreuves, qui nous surmontent. On essaye de trouver des solutions. Des solutions quand on n'a pas la grâce de Dieu, alors on cherche des solutions dans ce qui est humain. On cherche des solutions suivant le cas, si nous sommes malades, auprès des médecins. On cherche des solutions pour que, en fait, notre vie soit quand même dans ce monde difficile, parce que nous sommes dans un monde difficile et que l'avenir n'est pas glorieux en termes terre à terre. Qui va pouvoir nous aider? Qui va pouvoir nous secourir? Qui va pouvoir solutionner les problèmes? Eh bien, la réponse vous est donnée. On l'a lu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, quels qu'ils soient. Alléluia. Donc, le miracle divin peut se produire dans nos vies tous les jours. Bon, comme j'aime à le dire devant votre amen, je suis vraiment encouragé. Est-ce que vous croyez au miracle? Mais je vais vous dire, il y a une différence entre dire croire au miracle et vivre le miracle. Je crois au miracle. Qu'est-ce que tu fais pour obtenir le miracle? Pas le tout de dire je crois au miracle. C'est même pas le tout de dire je crois en Dieu. C'est de vivre de manière à obtenir le miracle. C'est ça la différence. Pour voir le miracle s'accomplir, parce qu'il faut quand même souligner que la parole de Dieu, qui est la vérité, nous révèle et nous dit, par exemple, qu'il n'y a rien d'étonnant que Dieu ne puisse faire. Dieu peut tout faire. Alléluia. Il peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Et pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, on cherche la solution dans ce qui est humain et on ne trouve pas, même en consultant des gens summum dans l'intelligence, on ne trouve pas la solution. Oui, peut-être, mais écoutez bien, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les hommes peuvent vous dire « impossible ». Oui, mais si je fais ce que me dit Paul dans les Philippiens, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Alléluia. Dans les petits besoins, comme dans les grands besoins. Dans les petites difficultés, comme dans les grandes difficultés. Alléluia. Il est toujours le même. Si on a le temps, on le verra, mais il est toujours le même. Il n'a pas changé. Il n'y a chez lui ni changement, ni ombre de variation. Toujours égal à lui-même. Alléluia. Donc, ce qui nous fait comprendre, premièrement, que pour voir le miracle dans sa vie, dans son avenir, il faut croire que Dieu existe. Vous voyez ? Il faut croire que Dieu existe. Et croire que Dieu existe, je reviens à cette pensée, c'est pas de le dire avec la bouche, c'est le dire avec le cœur. Pourquoi je vous dis qu'il faut dire avec le cœur? Parce que tout simplement, et pour ne pas me tromper, je vais vous le lire dans Hébreux chapitre 11, verset 5. « Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. » L'homme, la femme, qui veut voir le miracle, eh bien, elle doit déjà avoir la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est croire en Dieu. D'accord? Mais avec la foi, pas avec l'intelligence. Ensuite, il est dit dans ce même verset, « Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent. » Et là, les chrétiens, vous savez la fin? Ceux qui sont là, qui suivent les réunions, vous savez la fin de ce verset? Bon, je pense que vous ne sortirez pas à 17h là, hein, ce soir. Quelle est donc la fin de ce verset? Je ne m'adresse pas aux pasteurs parce qu'ils doivent le connaître par cœur. Mais à vous, mes frères et sœurs et amis qui êtes là, c'est quoi la fin du verset? N'ayez pas peur, je ne vais pas vous manger. Pardon? Mon frère, là-bas au fond, vous ferez 2 heures de colle. Mais là, la réponse, elle est venue par là. ceux qui le cherchent sincèrement de tout leur cœur. C'est bien écrit. Donc, pour voir Dieu agir, la première des choses, c'est de croire qu'il existe. Et la seconde, c'est le croire de tout son cœur. Pas avec l'intelligence, avec le cœur. Je crois, Dieu, que tu existes, que tu es toujours le même, que tes promesses sont oui et amen, et que tu as la puissance et le pouvoir de les accomplir maintenant. Parce que quand tu parles, tu agis. Alléluia. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important qui va avec celui-là, qu'on vient de citer, c'est de croire à la parole de Dieu comme étant la vérité. Et non pas comme étant un conte ou des fables, comme certains parfois le disent. C'est des contes, c'est des fables, c'est des récits, c'est historique. J'en ai entendu pas mal. J'en ai même un qui, un jour, à qui j'ai rendu témoignage, qui me dit « Je ne donnerai jamais la Bible à lire à mes enfants parce que ça ne parle que de guerre. » Alors parfois, je suis étonné, je retiens ma langue. Parce qu'on pourrait dire « Ah oui, c'est un livre de guerre et ton fils, il regarde quoi là sur la pêche la PlayStation. Hein ?» Quand vous voyez, parfois, ça vous est arrivé d'entrer dans un magasin spécialisé, vous voyez les gosses, ils vous achètent que des trucs de guerre, des monstres qui vont anéantir et tout ça. On prépare le monde de demain. Enfin, je ne veux pas critiquer personne, vous faites ce que vous voulez. Mais par ces choses, on est en train d'influencer les esprits des enfants et on est en train de créer un monde de violence. Ça ne vous étonne pas, vous, qu'aujourd'hui, des adolescents de 13, 14, 15 ans sont là pour tuer les adultes, à coups de barre, comme je l'ai entendu aux informations. Mais il faut réfléchir un peu. Il faut réfléchir. Peut-être que les parents arrêtent d'acheter ces choses et de laisser, comme certains le font, leur gosse pendant des heures à jouer à ça. Après, ils disent « Oh, il est énervé, mon petit !» Ouais. Je ne dis pas de leur donner des contes de fées, mais il faut quand même veiller sur les choses. Ah oui, non, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez. Merci, pour ne pas couper la prédication. Merci beaucoup. Voilà, donc il y a des exemples autour de nous, mais la vérité biblique, elle est là devant nous. Elle est celle qui nous apporte, là, je vais citer ce que dit la Bible, hein, le bonheur, la paix, la joie et la bénédiction divine. Ou vous pouvez inverser, hein, vous mettez l'ordre que vous voulez. Mais comme la Bible dit, ce que Dieu veut, ce n'est pas votre malheur, c'est votre bonheur. Alléluia. Et tout le monde court après le bonheur, mais il se trompe de route. Parce que le véritable bonheur, ce n'est pas d'aller faire du ski, mais là aussi, ce n'est pas des reproches. Il faut réfléchir un petit peu. Les gens se plaignent, ils sont là, ils courent à droite et à gauche, ils vont quémander le bonheur où ils peuvent, au bord de l'eau, dans la montagne ou ailleurs, faire des voyages pour oublier. Mais ils oublient que Nenni. Hein. Parce que quand ils reviennent, là je sens que je vais peut-être, comme on dit, une expression à moi, hein, ne vous inquiétez pas, je vais me faire lyncher. Mais quand personnellement j'entends que des gens partent alors que les temps sont difficiles, dans des lieux idylliques ou à la montagne ou à la neige, mais j'ai rien contre ces choses, hein, croyez-moi. Mais ce qui m'interpelle, c'est d'entendre certaines personnes après dire « J'ai fait un emprunt pour payer le bonheur que j'ai pris sur la montagne ou au bord de l'eau ou à la mer. » J'ai fait un emprunt. Alors, ils sont partis 15 jours pour trouver le bonheur et quand ils reviennent, waouh, comment je vais faire pour payer mon crédit? Est-ce que vous saisissez le sens de ma réflexion? Si tu pars chercher le bonheur et tu reviens avec des soucis pour savoir comment tu vas payer ton bonheur, il y a quelque chose qui ne va pas. Non? Je paye pour avoir le bonheur. Moi, j'ai un scoop formidable après-midi. Je vous dis, vous pouvez être heureux, et je vous le dis de la part de Dieu, Vous pouvez être heureux, connaître le bonheur, et c'est gratuit. Non ? Gratuit. Vous voulez pas quelque chose de gratuit ? Tout le monde court après ce qui est gratuit. Dès qu'il y a un peu de solde, maintenant on court vite. Il y en a qui, pour pas louper la solde, se campent devant le magasin toute la nuit pour ne pas rater la bonne affaire. Ouais, on rentre dans un drôle de monde. Hein. Oui, mais moi je vous dis aujourd'hui, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Allez, pas compliqué, hein, croire. Des fois on croit n'importe qui. Hein. Et quand on parle de Dieu, les gens ils ont du mal à croire. Pourquoi ? Crois et tu verras le bonheur. Crois et tu connaîtras la paix de Dieu intérieure. Crois seulement et Dieu te bénira. Crois seulement et tu verras le miracle dans ta vie. Crois ce que te dit la parole. Car si tu appliques la parole à ta vie, à ton cœur, si tu fais confiance à la parole de Dieu qui est vérité, tu ne seras jamais déçu. Que de déceptions il y a dans le monde pour s'être confié parfois à des personnes, là aussi à des sommités. Mais Dieu, lui, ne déçoit personne parce que, je le répète, ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Alléluia. Dans les temps faciles comme dans les temps difficiles, le miracle divin, c'est de garder la foi constante dans l'amour de Dieu, dans la personne de Dieu, parce que Dieu est peut-être invisible, mais il existe. Vous voyez ? Et cet amour qu'il a manifesté, on va en parler un petit peu, mais il a manifesté en envoyant son Fils bien-aimé sur la terre. On est bien d'accord ? Pourquoi ? Pour qu'il soit heureux. Mais l'amour de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, cet amour divin, Dieu l'a manifesté dès la création du monde, dès que l'homme est venu. Car je voudrais quand même, entre parenthèses, vous rappeler, quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, c'est pour qu'il vive heureux et éternellement. On pourrait le dire comme ça, entre guillemets. Voilà. Il n'y avait pas grand-chose à faire, hein. Vous savez ce que faisait Adam dans le jardin d'Éden quand il y était, là, dans les premiers temps où il était ? On va prendre un mot qui est connu, hein. Il faisait farniente. Il était dans le jardin, il surveillait, tranquille, il allait, il venait, ah ça c'est bien, oh elle est belle cette fleur, c'est extra ça, si. Il jouissait du jardin d'Éden. Jardin d'Éden veut dire jardin des délices. Vous saviez ça ? Et puis un jour, il a fait la catastrophe. Alors, il y en a qui, des fois, disent, mais ça, c'est pas la faute d'Adam. Hein. C'est la faute de Dieu. Alors, vous vous posez la question, pourquoi ? Parce qu'il a créé la femme depuis Adam. Il a placé une femme à côté d'Adam et c'est cuit. Adam a capitulé. Allez. Moi, je vais vous dire pourquoi il a capitulé, pourquoi il a été mis en dehors du jardin d'Éden. C'est pas parce que Dieu lui avait mis une femme à côté. Au contraire, Dieu a dit, pour le bonheur de l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Entre parenthèses, je vais le dire quand même, entre parenthèses, Dieu, ce qu'il demande, c'est pas une union libre, c'est un mariage. Vous en ferez ce que vous voulez, mais c'est écrit dans la Bible. Moi, je suis là pour vous dire un petit peu, avec vos pasteurs, ce que la Bible dit au cas où vous l'aurez oublié. Ben oui, c'est écrit. Hein. Alors, Adam, il était là, mais c'est pas parce que sa femme... Non, c'est parce que... Vous savez pourquoi il a été jeté hors du... Entre guillemets, le mot jeté. Hein, mis hors du jardin d'Éden, Adam. Vous savez pas ? C'est pas à cause de Ève. C'est pas... Même si le tentateur est venu dans la personne du serpent, là, qui est devenu Satan, l'image de Satan, du diable, il a été jeté en dehors du jardin d'Éden parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Vous relirez le texte. La preuve, quand Adam est venu pour pratiquer sa tentation, que dira-t-il à Ève ? Dieu a-t-il réellement dit ? Et ça a été le piège. Il a ajouté derrière, quand il a vu la faiblesse, « Et vous serez comme des dieux !» D'un seul coup, les galons, ils montent là. « Schlaf !» Oui, mais ils se sont vite retrouvés à la porte. Hein. Et lui qui vivait Adam dans un pays de délices, où il n'avait qu'à surveiller, garder, Dieu lui a dit « Maintenant, tu vas sortir du jardin et tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front. » Je ne me trompe pas. Et ça a été le début de ce que je vous ai dit en début, à savoir que depuis tous les temps, il y a eu des problèmes dans la vie. Car vous connaissez certainement le premier problème qui est né après la chute d'Adam et Ève. Devant votre réponse collective, quel est donc le premier problème? Voilà, vous avez tout dit. Et ça n'a fait qu'empirer jusqu'à aujourd'hui. Tout ça parce qu'il y a eu une désobéissance à la parole de Dieu. Or, je ne vous dis pas désobéissez à la parole de Dieu cet après-midi. Je vous dis croyez-la, recevez-la. Vivez-la, obéissez à cette parole, croyez à son application dans votre vie et vous vivrez une vie de miracle. Le miracle. Vous savez, le miracle, ça parle aux adultes, mais ça parle aussi aux enfants. Tout à l'heure, Brigitte a parlé que quand elle était enfant... Mais moi, je vais vous dire que les enfants ont une foi de tonnerre. Moi, j'avais un... Je l'ai toujours, mais il est plus petit maintenant. J'ai plus de 40 ans. Mais un jour, en rentrant d'une réunion de prière avec mon épouse, une réunion de prière le soir, bien sûr, on avait une petite maisonnette dans la Vlanée et, où j'ai exercé le ministère. Et quand on arrivait, il faut monter un étage pour aller aux chambres. Et on est arrivé, on a dit aux enfants, allez, il faut aller vous coucher. Nathanaël, puisqu'il s'agisse de lui, si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous demande de le connaître. Non, mais en bien. Et il a commencé à monter, puis d'un second, on entend, boum. Je monte et je vois mon petit qui était là en train de pleurer, qui se tenait le nez. Il était tombé sur l'arête de l'escalier. Quand je suis arrivé, pof, c'était ouvert ici, ça saignait, tout ça. Et alors, je me suis penché sur lui, j'ai dit à mon épouse, « Oula, on ne peut pas le laisser comme ça, c'est pas beau, c'est mauvais. » Donc, je vais le prendre et je vais l'amener à l'hôpital. Mon fils, qui avait là 4 ans ou 5 ans, si ma mémoire ne me trompe pas, me dit, « Non, papa. Non, papa. Tout petit. Prie pour moi au nom de Jésus. » Alors, je l'ai pris, je montais dans sa chambre, et j'ai prié pour lui au nom de Jésus, puisqu'il le voulait de tout son cœur, il ne pouvait pas dire non. On a mis l'hôpital de côté, peut-être ai-je pris pour certains une décision qui n'était pas compatible, mais on vient de lire quand même que la foi apporte la victoire. Et Dieu regarde la foi pas seulement dans un adulte, mais la foi dans un enfant. Et je ne vous cacherai pas que le lendemain matin, bon déjà la nuit, je n'ai pas osé, mais si, un petit peu, quoi, regarder, mais je voyais qu'il dormait bien, donc je repartais me recoucher, pas déranger. Et au matin, quand il a commencé à se réveiller, donc je suis allé le voir dans sa chambre, il avait le masque de Zorro. Il était noir en dessous, mais le nez était rétabli. Rétabli. Gloire à Dieu. T'as mal? Non, ça va, c'est bon. Et il a plus jamais souffert de son nez. Il a juste... Et encore, il faut bien regarder, parce qu'en grandissant, mais il avait pendant longtemps gardé la cicatrice. Et puis, non pas que j'ai eu des doutes, mais à douzaine d'années, peut-être un peu plus petit, il m'a dit, papa, je veux faire du rugby. Ah, tu veux faire du rugby? Alors, il fallait qu'il fasse du sport. Oui, parce qu'il était un peu bougé beaucoup. Et même quand il, des fois, vous ne direz pas que je vous ai dit ça. Hein. Quand des fois il allait dans sa classe, là, hein, un élève, il n'était pas au lycée encore, là, il était pas en maternelle, mais il était à l'école, quoi. Un jour, on a été appelé avec l'instituteur, on nous dit, il faudrait peut-être dire à votre fils qu'il fasse du sport, parce que la dernière fois, j'étais en train d'expliquer quelque chose au tableau, et d'un seul coup, je l'ai vu au milieu d'aller, au troisième rang. Pas lui, son copain qui était à côté de lui. Ouais, il fallait qu'il... Alors, j'ai dit, on va le mettre au rugby. Pas moi, il a choisi. Mais avant, il faut passer une visite médicale. Et j'ai expliqué au médecin que, tout petit, il avait eu un accident sur son nez. C'était abîmé le nez. Je dis, vous pensez que? Il me dit, attendez, tout, il touche tout. Il dit, mais non, la paroi du nez de votre fils, elle est parfaite. J'ai eu, ici, quelques temps après peut-être, non pas que j'ai douté, pas du tout, simplement prendre une précaution. Vous n'auriez pas pareil avec vos enfants, vous? Mais ma précaution m'a confirmé que quand Dieu met sa main, il n'y a pas besoin d'y revenir. Alléluia. Et je dirais entre parenthèses, parce qu'il faut être clair et net à toute réflexion, c'est que la foi n'exclut pas la sagesse. Vous réfléchirez à ça. La foi n'exclut pas la sagesse. Je dois agir dans ma vie selon la volonté de Dieu. Je dois accepter la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Amen. Autrement, il faut enlever certains cantiques de nos recueils. Moi, quand j'étais tout petit, on m'a appris... Ce petit cœur qui dit « Ah, je suis joyeux, dis-moi pourquoi ?» Et vous connaissez la réponse ? Ah, oh, les moniteurs, là. « Parce que Jésus est mon ami. » Eh bien, ça, je ne l'ai jamais oublié. Il y a des chants que je n'ai jamais oubliés. Je crois que je vous en ai parlé d'un déjà, mais je vais me faire un plaisir de vous le redire. Alors là, « Je suis joyeux parce que Jésus est mon ami. » Et en même temps, j'enchaîne en disant « Je suis plus riche qu'un millionnaire. » Parce que Dieu est mon ami. Parce que je sais qu'il pourra... Ça, je suis plus riche qu'un millionnaire, c'est un chant. Mais comme à partir du moment où je dis « Dieu pourvoit à tous mes besoins, je suis riche !» Il n'y en a que quatre comme moi. Ah, pas plus. Je suis riche parce que Dieu est mon ami. Parce que Dieu prend soin de moi. Parce que Dieu pourvoit à tous mes besoins. Mais je suis riche. Ah ben, je ne suis pas comme certains qui comptent leurs zéros. Hein. Placés à la banque, 0, 0, 0, 0, 0. Non, moi, je suis heureux parce que mon trésor est dans le ciel. Alléluia. Votre trésor est-il dans le ciel? C'est à vous de voir. Dieu est celui qui pourvoit en tout temps, en toutes circonstances. Et il le fait au travers d'un nom qu'il nous a donné. Au travers du nom de Jésus. Alléluia. J'ai pas le temps là de vous parler de tous les miracles hein, de la Bible. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont étonnants les uns les plus que les autres. Enfin, juste 5 minutes, m'accorder 5 à 10 minutes encore, je peux, monsieur le pasteur. Quand je vais dans l'Ancien Testament, il y a pas mal de miracles, mais réfléchissez sur vous qui êtes lecteur de la Bible, là, sur la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta a connu des temps difficiles. Pourquoi? Parce que elle a, je vais un petit peu me rapprocher de la réalité, parce qu'elle a connu la canicule qui a été produite par Dieu, et dans la Bible ça s'appelle la sécheresse. Et alors elle était là, elle a vivoté les derniers instants de sa vie avec son fils. Et elle s'est mise à ramasser du bois, parce qu'il y avait dans son vase de farine un tout petit peu de farine, dans l'autre un tout petit peu d'huile, et avec ça, elle allait faire des gâteaux. Mais elle ne savait pas qu'elle allait recevoir la visite d'un homme. Mais un homme qui a été envoyé par Dieu. Et cet homme, c'est le prophète Élie, qui était dans les mêmes circonstances que lui. Enfin, qu'elle. C'est-à-dire que la sécheresse aussi l'avait... attraper. Il n'y avait plus d'eau au bord du torrent sur lequel il était posé de par l'Éternel lui avait dit d'aller là, parce qu'il avait ordonné, regardez Dieu comment il est bon. Il avait ordonné à des corbeaux de le nourrir et il avait l'eau pour se désaltérer. Mais quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de corbeaux. Non, là, ce n'est pas écrit, mais on peut l'imaginer, puisque Dieu dit à Élie, va auprès d'une veuve là-bas à Sarepta, car je lui ai ordonné, et elle ne le savait pas, et je lui ai ordonné de te nourrir. Et il est arrivé dans cette maisonnette, là, on peut dire, et il a vu cette femme. Ah, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je ramasse des brindilles de bois, je vais aller à la maison, je vais faire un gâteau, parce que ben, c'est tout ce qui nous reste pour mon fils et moi, on va le manger, et puis vous savez ce qu'elle a dit, et puis on va mourir. Triste situation. Ah ouais? Eh bien, Élie, il a pris la parole. Et lui dit, ben vas-y, vas-y, et avec ce que tu as, tu me fais un gâteau. J'aime cette réflexion-là. Enfin, j'aime. La femme n'a rien dit, parce que juste après, il a dit, mais et après que tu m'auras fait le gâteau, que tu me l'auras donné, tu en feras un pour toi et pour ton fils. Alors la femme, elle est allée, la veuve, elle a fait comme le prophète lui avait dit, fait le gâteau, elle lui porte, et lui, ah miam miam, hein. Et elle a refait un gâteau, à moins qu'elle les ait fait les deux à la fois, ça c'est pas écrit. Dieu a béni cette femme, parce que derrière, quand elle a fait ce que le prophète lui a dit, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il lui a dit, fais le gâteau, mais il y avait une promesse à la clé. Parce que si tu me fais le gâteau, la promesse, elle ne vient pas d'Élie, elle vient de Dieu. Tu ne manqueras plus dans ton vase de farine et d'huile. Il y en aura toujours jusqu'à la fin de la sécheresse. Dieu va pourvoir. Alléluia. D'un seul coup, la joie est revenue. Et quelques temps après, une nouvelle épreuve pour cette femme. Son fils, adolescent, va mourir. Et là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé que cette femme, qui n'avait que ce fils unique et qui n'avait rien demandé, si vous lisez les textes, vous le lirez, j'ai rien demandé à Dieu, j'étais heureuse, et voilà, mon fils, toi tu es venu, mon fils il est là, il est mort. J'avais rien demandé. Il y avait tout un tas de reproches qui s'élevaient du cœur de cette femme. Et Élie, il lui a dit, eh bien, donne-moi ton fils. Alors, il lui a donné son fils, hein, il l'a mis dans les bras. Lui, il est monté dans la chambre haute. Il a posé le fils, puis il a prié pour lui. Il s'est même mis à côté de lui. Et il nous a dit que le fils, Dieu, lui rendit le souffle de la vie. Il est ressuscité. Alléluia. On peut s'imaginer, puisque que la veuve en bas devait se poser pas mal de questions intérieurement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne suis pas avec eux. Comment ça va se faire? Vous voyez, un tas de questions. Mais quand Élie est redescendu avec le petit, il l'a rendu à sa mère. Ça a été un nouveau moment de joie, d'allégresse, de paix. Tout était rétabli, la paix de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre bonheur. Et imaginez, quand il a rendu ce fils à sa mère, le bonheur était là. Oui ou non? Maintenant, je vais vous poser une question. Ce sera la dernière. Vous savez ce qu'a dit cette femme, le prophète Élie? Bon, je vous aime bien, hein, de tout cœur, hein. Et je vais dire qu'on va sortir que lorsque j'aurai la réponse. Cette femme a répondu, écoutez bien, je sais maintenant que dans ta bouche, la parole est vérité. Or, permettez-moi de souligner que la parole qui est dite à Dist, c'est la parole de Dieu. C'était le prophète de l'Éternel, ne l'oubliez pas. C'était la parole de Dieu. Elle est en train de dire à Élie, je sais que dans ta bouche, maintenant, ta parole est vérité. Ta parole, c'est la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, et je termine par là, aujourd'hui, Dieu ne nous a pas envoyé un prophète. Il nous envoyait le plus grand des prophètes. Il nous envoyait celui qu'il aimait le plus. Il nous envoyait son fils, Jésus. Et Jésus a dans sa bouche la parole de la vérité. Parce que la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la parole vivante qui a été faite humaine. Et cette parole, elle est toujours valable. C'est la parole de Dieu. Elle ne ment pas. Elle dit la vérité. Et celui qui croit, il voit le miracle dans sa vie. Le miracle. Et savez-vous que le plus grand des miracles, c'est pas d'obtenir des biens terrestres. C'est même pas d'obtenir une bonne santé. Que Dieu le fasse pour chacun d'entre vous. C'est d'avoir le pardon de vos péchés pour être sauvé pour l'éternité. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il n'y a que sa parole qui peut faire. Sa parole transforme l'être humain. Et il en fait un héritier de la vie éternelle. Tu peux tout essayer de désirer sur cette terre. Rien ne t'apportera le plus grand bonheur. Le plus grand bonheur, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ et de vivre pour Dieu. Et tu vivras avec cette espérance qu'un jour, tes yeux verront Jésus face à face. N'est-ce pas le plus grand bonheur? N'est-ce pas le plus bel héritage que l'on puisse désirer, recevoir? Et ce soir, cet après-midi, le Seigneur est là. Il te parle par son esprit et par sa parole. Et il te dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si aujourd'hui tu me donnes ta vie, si aujourd'hui tu te tournes vers moi, si aujourd'hui tu crois de tout ton cœur en ma parole et à la puissance de mon nom, alors aujourd'hui tout peut changer dans ta vie. Et tu peux avoir un avenir assuré. Et l'avenir dont je veux t'assurer, c'est l'accomplissement de ma promesse. Je sais qu'un jour, tes yeux me verront face à face. Alléluia. Mais cela dépend de qui? Cela dépend de chacun d'entre nous. Cela dépend peut-être d'une seule personne cet après-midi, de voir sa vie changer, son avenir changer, être transformé. Alors je voudrais prier pour vous et demander au Seigneur sa bénédiction pour vous. Le Seigneur est là, alléluia, et il parle par son esprit. Convaincu que là, ce soir, quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu. Quelqu'un a besoin du secours de Dieu. Quelqu'un a besoin de la délivrance de sa vie pour connaître le véritable bonheur. Parce que déçu par ce qu'il a connu jusqu'à aujourd'hui, ou ce qu'elle a connu jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur te tend la main. Il t'ouvre ses bras pour que tu connaisses une vie meilleure. Une vie de joie, de paix, de bénédiction, de pardon et de vie éternelle. Seigneur notre Père, nous te disons merci.